RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h08, nous sommes de retour le week-end des experts, l'auto jusqu'à 10h, et heure à laquelle vous retrouverez les paris RMC. Et pour cette deuxième heure de ce rendez-vous auto tout à l'heure, notre rendez-vous rétro, comment les restrictions de circulation prévues en 2021 vont-elles impacter les voitures anciennes? Jean-Luc, on verra ça. La Maserati Levante GTS, c'est comme ça qu'on la prononce?
Oui, Levante GTS.
Levante, voilà.
Elle n'est pas éventée, hein?
Non. Non.
Au contraire.
Et le prix est
oui.
sympathique aussi, c'est Maserati.
Oui.
Mais bon, écoutez, on rêve un peu. Hein.
Ouais, c'est Noël.
La
Noël.
Question pas si bête tout à l'heure sur le vif, et puis bien sûr toutes vos questions auto, hein. Profitez-en. Voilà.
Et toutes vos blagues ce matin, puisqu'on a Pascal qui nous demande, est-ce qu'on connaît le saint patron des roues? Alors le saint patron des roues, c'est l'enjoliveur, parce que l'enjoliveur protège les roues.
L'ange Oliver.
L'ange Oliver protège les roues. Oui. Enfin, ouais. C'était bien aussi celle-là. Hein.
C'était un petit tambour. Hein, là, hein. Même Kevin, qui pourtant est bon public, n'osait pas envoyer le jingle. Parce que c'est vrai que là, c'était quand même assez costaud.
Capillotracté, comme ouais. on dit.
Allez, 8h09, vos questions au 32-16. Et Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Luc. Bonjour François. Comment allez-vous?
Ça va Frédéric Deslandes?
Très bien, très bien. Bon. Je me permets donc de vous poser une question. J'envisage d'acheter un SUV d'occasion avec boîte automatique essence afin de rouler à l'éthanol. Suite à mes recherches sur un site de petites annonces que tout le monde connaît, mon choix s'est dirigé vers trois autos, à savoir, je pense que Jean-Luc va être content, le Lexus NX300H, 2 ou 4 roues motrices, le Mazda CX-5 essence 2 litres. Et enfin, Jean-Luc, je vais vous remémorer un essai que vous avez fait il y a 5 ans avec Automoto concernant un véhicule qui n'est pas trop diffusé, qui est le Jeep Grand Cherokee Flex Fuel.
Oui, alors, je sortais d'un tipi indien pour démarrer le sujet.
C'est exact.
Mais c'était donc, à l'époque, vous savez quoi? C'était le dernier. C'est pour ça que, en fait, comme il s'appelle Grand Cherokee, j'avais appelé le truc le dernier des Mohicans, parce que c'était le seul véhicule flex fuel qui était disponible à cette époque-là. C'était absolument incroyable, quoi.
C'est exact. Donc, comme je vous écoute religieusement tous les dimanches, moi, je plébiscite la fiabilité au niveau des moteurs, et je souhaite aussi également disposer d'un véhicule confortable et économique. Alors concernant ma conduite, bon, j'habite dans le département des Landes, donc un département assez plat, et je parcours à peu près 20 000 km par an sur les routes de campagne.
D'accord. La solution du NX300H est la plus raisonnable. Alors je vous conseille plutôt de le prendre en 4 roues motrices. Vous allez me dire, j'ai pas besoin, j'habite une région plate où il n'y a jamais de neige. Mais c'est pas pour ça, parce que c'est un peu plus efficace. Par contre, il pleut chez vous de temps en temps, et quand il pleut sacrément. Et c'est vrai que c'est mieux parce que sinon le train avant a fort à faire en ayant le couple du moteur électrique et le moteur thermique. Donc c'est en fait plus intéressant en termes d'homogénéité du véhicule d'avoir les 4 roues motrices, et même plus efficace en termes de consommation. C'est très étonnant, mais le 4 roues motrices va consommer moins que le 2 roues motrices. Donc c'est des modèles qui passent très bien à l'éthanol.
Okay.
En conso, alors en conso normal, c'est des véhicules, malgré une puissance qui est quand même respectable, ça fait 197 chevaux hein, au total en puissance cumulée,
oui.
On est à des consos qui sont entre 7 litres et 7 litres et demi quand on roule normalement. Bon, à l'éthanol, vous allez consommer un litre et demi de plus, mais ça reste très raisonnable, et surtout en matière de budget, en matière de coût carburant, il n'y a rien qui sera équivalent à ça. Moi, mon choix, d'accord. Il irait vers ça.
Ok, d'accord, parce qu'en fait, moi j'aimais bien aussi pourquoi ces trois véhicules qui sont un petit peu atypiques et qui sont peu diffusés, enfin, par rapport à d'autres véhicules essence. Hein. J'aimais bien aussi le Mazda CX-5 hein, de dernière génération, au niveau du look. Hein.
Oui.
Mais ensuite, j'ai écouté une émission que je vous écoute tous les dimanches concernant un propriétaire qui a apparemment dû faire enlever son boîtier éthanol parce que ça ne marchait pas à cause du taux de compression. Mmh. C'est bien ça.
C'est ça, on a eu un auditeur qui avait un souci avec ça. Bon, après, le Grand Cherokee, c'est bien, hein, mais il faut en trouver un.
J'en ai trouvé un.
Vous en avez trouvé un?
J'allais trouver. Alors attention, c'est pour ça que bon, là aussi, je voulais pas trop insister, mais enfin, moi, c'est le gabarit est une chose. Bon, ça, c'est pas ça le problème. Hein. Bon, tout à l'heure, acheté première main, il a quand même 200 000 km. Bon, après, vous allez me dire sur un 3 litres 6 V6. Bon, c'est pas non plus.
200 000 km, ça dépend de 100 000 km de quoi. Si c'est 200 000 km d'autoroute, c'est pas grave. Mais s'il a fait 200 000 km de vide, il est rincé le truc.
Ouais, parce que c'est surtout ce que j'ai un petit peu peur, c'est par contre quand j'avais abordé en premier sens, et c'était concernant les boîtes automatiques qui sont sur trois véhicules.
Sur le NX, ouais, c'est pas une boîte automatique, hein, c'est de la variation continue à gestion électrique, pour faire simple. Sur le Grand Cherokee, c'est une vraie boîte automatique, c'est une ZF à 8 rapports. Donc c'est une boîte fiable. Hein. C'est d'ailleurs sur cette version du Grand Cherokee qui était passé d'une boîte automatique 5 rapports antédiluvienne qui vraiment étranglait complètement le moteur à cette boîte ZF à 8 rapports. On avait l'impression d'avoir une nouvelle voiture alors que c'était juste la boîte qui avait changé. Donc la boîte est pas mal. Mais alors tout à l'heure on parlait de conso. Je vous disais vous allez consommer 8 litres avec le NX 300H en éthanol. C'est 17 litres avec le Grand Cherokee. Hein.
Ouais, c'est le propriétaire que j'ai contacté, ouais, qui fait 15 litres. Ouais, donc,
il est un peu comme François, il force sur l'alcool un peu le Grand Cherokee quand même. Hein.
D'accord. Et je voudrais juste poser une dernière petite question concernant ces véhicules donc d'occasion. Bon, j'ai encore écouté concernant l'entretien donc ces boîtes auto. Donc là aussi, si j'achète ces trois voitures qui vont vers les 70 000, 100 000 km, donc je vais être obligé aussi donc de faire une vidange de boîte automatique. Donc ça c'est bon. Je pense que je vais trouver un spécialiste adéquat dans le sud-ouest de la France.
Ouais, on vient d'en reparler juste avant. Alors, on en parle de plus en plus souvent, parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui sont en boîte automatique. Voilà, c'est pour ça. Alors, je laisse de côté hein, les boîtes à double embrayage, les boîtes robotisées à double embrayage, qui ne sont pas exactement concernées. Alors, on parle des vraies boîtes automatiques avec un convertisseur de couple.
D'accord. Et par contre, Lexus, lui, c'est pas une vraie boîte automatique.
Non, c'est pas une vraie boîte automatique. Le fonctionnement est automatique, mais c'est pas une boîte automatique à convertisseur de couple.
Et donc, ce véhicule a-t-il la nécessité de faire la vidange de la boîte ?
Vous avez le temps avant d'envisager une vidange sur ce genre de transmission.
Frédéric, merci. Frédéric Deslandes qui nous a joint au 32-16. On est là jusqu'à 10h. Profitez-en. Vous pouvez nous appeler. Amina est là pour réceptionner vos appels. Vous avez aussi l'appli RMC. Vous pouvez nous laisser un message avec Direct Studio, Jean-Luc. Et on accueille maintenant Jean-Louis Blanc qui est le président de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Bonjour Jean-Louis, donc on va parler de ces fameuses zones à faible émission qui vont arriver un petit peu partout dans plein de grandes métropoles françaises l'année prochaine, qui sont déjà en place. Alors ça change de nom un petit peu tout le temps, hein. C'était zones à circulation restreinte, ça va être les zones à faible émission. L'année prochaine, il y aura la métropole du Grand Paris, Lyon, Grenoble-Alpes métropole, métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Nice-Côte d'Azur, la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, il y aura Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Eurométropole Strasbourg et Métropole Rouen-Normandie. Donc ça fait un paquet de grandes villes et de métropoles de ces grandes villes qui vont être concernées par ces restrictions. On va appeler ça restriction de circulation pour que tout le monde comprenne. Ça touche quel type de voiture déjà pour commencer, Jean-Louis ?
Alors pour l'instant, aucune. Comme vous avez dit, c'est l'année prochaine. C'est l'application en France d'une directive communautaire qui est ancienne, qui date de 2008 et qu'on applique ici avec beaucoup de retard. Qui est déjà en application chez nos voisins, en particulier en Allemagne.
Bon, qui est déjà en application, on parlait tout à l'heure de Paris, hein, c'est déjà en application à Paris.
Alors
en fait.
Non, sur Paris, c'est ce qui existe, c'est ce que vous avez dit, c'est des zones à circulation réglementée. Donc il y a trois zones actuellement qui sont toujours d'application, c'est métropole du Grand Paris, Paris, Grenoble. Et dans chacune de ces trois zones, eh bien, la FFVE avait obtenu pour les collectionneurs une exonération des restrictions de circulation, c'est-à-dire que ils ne se sont rendus compte de rien, mais ils ont pu continuer à circuler depuis 2016.
D'accord.
On a été institué à Paris et 2019 et 2019 également à Grenoble, métropole du Grand Paris. Voilà. Donc, d'accord, les dérogations pour les véhicules de collection dans les trois zones existantes ont été obtenues.
Oui, alors, Jean-Louis Blanc, pour que les gens comprennent bien, on prend l'exemple de Paris. À Paris, entre 8h le matin et 20h le soir, si on a un véhicule alors on va dire anciens pour aller voilà pour ouais. Pour faire plus ouais. simple, on n'avait pas le droit de circuler, ouais. on pouvait circuler le week-end. En revanche, ceux qui avaient des voitures en carte grise de collection, ouais. c'est-à-dire des véhicules de plus de 30 ans avec la mention véhicule de collection sur la ouais. carte grise, eux ouais. n'avaient pas cette restriction de circulation.
Absolument. C'est ça,
sauf en cas de pic de pollution, on comprend ah oui, parfaitement bien sûr, que ah, quand il y a un pic de pollution, les vieilles voitures doivent rester au garage. Sûr, ça, c'est du civisme. Voilà. Alors, est-ce que ça va pouvoir perdurer ça? Parce que comme on change de système et que...
On change de système, vous voilà. Donc, le système nouveau, c'est un système qui vise à diminuer la teneur en air dans les grandes métropoles de deux facteurs. C'est les microparticules, qui sont principalement produites par les diesels, et puis les oxydes d'azote. Donc ça, c'est une...
Qui sont aussi produits par les diesels, majoritairement.
Oui, mais par les autres aussi, pas essentiellement par les diesels. Donc, toutes les métropoles sont en train de réfléchir aux mesures qu'elles vont prendre chez elles, dans leur ZFE, pour arriver à respecter des critères communautaires sur la qualité de l'air, parce qu'aujourd'hui, on dépasse. Ouais. Donc, les mesures qui vont être prises vont être prises localement, après concertation, et soumises à la délibération du Conseil de métropole. Donc tout ça, ce n'est pas pour demain matin, ce n'est pas le 1er janvier, mais dans le courant du premier semestre, les différentes métropoles qui sont obligées d'arrêter une ZFE, c'est-à-dire les 11 métropoles que vous avez citées, celles-là devront délibérer dans le courant du premier semestre et appliquer dans le courant de l'année des restrictions de circulation.
D'accord, vous êtes en discussion quand même avec ces gens-là.
Nous sommes en discussion, oui, et pas qu'avec ceux-là. Ouais. Nous sommes en discussion avec toutes les métropoles qui ont un projet de ZFE, parce qu'il y a celles-là qui sont obligées de le faire, puis il y en a d'autres qui choisissent de le faire. Et les collectionneurs, vous savez, ne sont pas moins soucieux de la qualité de l'air que les autres citoyens. Nous sommes des citoyens comme les autres. Donc on discute avec chacune des métropoles. On a fait une statistique avec le parc existant, les risques de pollution existants, etc. Et on les voit les unes après les autres. En fait, on arrive aux chiffres, aux évaluations suivantes. Si vous voulez. Dans chacune des métropoles, les véhicules de collection, c'est à peine 0,5% du parc.
D'accord, donc c'est pratiquement négligeable. En plus, ils roulent très peu.
En plus, ouais. Elles roulent très peu. Elles oui. roulent 1000 à 1500 km par an. On a toutes les enquêtes, on a tous les... Mmh. Voilà. Donc, elles roulent 15 fois moins que la moyenne.
D'accord.
Donc, il y a 0,5%, 15 fois moins de la moyenne, ça fait 0,2 pour 1000 de la circulation.
Oui, donc c'est une goutte d'eau dans la mer, en fait.
Et en plus, il y a très peu de diesel, il y a 5% de diesel. Mmh.
D'accord.
Donc, la pollution en termes de microparticules et de NOx est absolument même pas mesurable. Même
d'accord.
pas mesurable.
Donc, vous essayez de leur expliquer que se priver du patrimoine et du passé historique de la France pour finalement gagner rien.
Rien, voilà. C'est complètement disproportionné, vous avez tout compris. Donc, c'est un discours que l'on tient à tout le monde, et on va les voir les uns après les autres. Et je dois dire que, sincèrement, sans crier victoire ni prédire l'avenir, nous sommes très bien reçus. D'abord, celles qui avaient déjà accordé ces dérogations vont sans doute, dans l'ancien régime, vont sans doute les maintenir. Et puis, celles les autres que nous voyons toutes, encore une fois toutes, reçoivent très bien les arguments, je crois. Enfin, il n'y a pas... Alors, vous savez, mais tant que le projet n'est pas écrit... Tant qu'il n'est pas délibéré.
Ouais, on ne peut pas crier victoire, effectivement. Mais Jean-Louis Blanc.
On fait tout pour que les collectionneurs puissent continuer à vivre de leur passion, Mais c'est surtout. On casserait un patrimoine. On casserait. Parce que vous savez, les voitures sont stationnées. Elles ne pourraient même plus sortir.
Oui, donc, celui qui a une voiture dans un garage en ville ne pourrait même pas s'en servir du tout. Quoi.
Bien sûr.
Ouais, sauf le week-end absurde. Ou la nuit.
Non, même pas.
Ça,
les week-ends, c'était les réglementations antérieures. Maintenant, on ne sait pas.
D'accord. On ne sait même pas.
Et oui, donc ça serait une mesure très dure, pour strictement aucun effet sur la qualité de l'air. Donc, ce serait complètement disproportionné.
D'accord.
Alors, néanmoins, ça, c'est donc les démarches que nous faisons, métropole par métropole. Ça fait 6 mois que nous avons commencé. Il y a une autre démarche que nous sommes en train de tenter auprès de l'État, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a appliqué la directive communautaire dès 2008. Et dès 2008, ils ont instauré pour les véhicules de collection une plaque d'immatriculation spéciale avec une lettre H, ça veut dire historische, et qui...
Qui les autorise à circuler. Oui, c'est vrai que dans Berlin, on voit des vieilles voitures qui circulent là où il n'y a que des voitures électriques à côté. C'est très étonnant.
Bien sûr. Donc les Allemands, c'est un pays c'est un pays plus décentralisé que nous, comme vous savez. Mm-hmm. Bon, c'est un pays qui a une conscience écologique au moins supérieure à la nôtre, plutôt supérieure, puisqu'ils ont mis en place des ZFE, il y en a 60 en Allemagne, dès 2008. Ils ont commencé à instaurer des ZFE. Et ils ont pris par décision nationale, au tout début, la décision d'exonérer les restrictions de circulation, les véhicules de collection marqués avec une plaque H. Alors, c'est ce que nous demandons à l'État.
C'est de pouvoir identifier, soit avec une vignette, soit du premier coup d'œil, les véhicules qui ont l'autorisation. Ouais.
Ben, d'accord. Bien sûr, une vignette collection qu'on apposerait sur le pare-brise comme les critères, si vous voulez.
Ouais, bien
parce
sûr.
Que nous ne pouvons pas avoir les critères. Ouais. Que les voitures, quand elles ont été fabriquées, ou les véhicules, quand ils ont été fabriqués, il n'y avait pas les critères. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est une vignette toute simple, infalsifiable évidemment, enfin, une nature que les critères, et qui porterait collection et qui ferait que ces voitures seraient exonérées de restrictions.
Jean-Louis Blanc va quand même préciser, les vieilles voitures qui ont plus de 30 ans qui ne seraient pas en carte grise de collection, elles n'auront pas le droit de circuler.
Ça, c'est l'État qui décidera.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Effectivement, le plus simple, c'est que ben, tout le monde ait une carte grise de collection de façon à bien rentrer dans les clous, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Louis Blanc, pour toutes ces précisions. Et rappelons que vous êtes président de la Fédération française des véhicules d'époque. On revient dans un instant, Jean-Luc, 8h24. Baptiste sera avec nous. Il veut nous raconter son expérience avec les véhicules électriques. Il va nous en parler dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h30 en ce dimanche matin. Merci d'être là sur RMC. Bienvenue si vous venez peut-être de vous brancher sur RMC. Bien c'est votre auto jusqu'à 10h.
François, avant de continuer, tiens. Parce qu'on a un auditeur qui n'arrête pas de me taquiner. Il me dit que mes connaissances techniques datent comme mes voitures de collection d'une autre époque. Je l'invite à venir discuter avec moi des technologies de demain, tiens. Mais il a raison parce qu'il me dit la boîte du Enix, j'ai pas donné. J'ai dit vous avez le temps. La boîte de Enix, c'est la boîte pont qu'il y a sur les hybrides Toyota, parce que c'est toujours le même système, évidemment dimensionné différemment en fonction du véhicule.
Oui.
On va dire que une vidange à 150 000 km, c'est raisonnable, alors qu'une boîte automatique normale, c'est entre 60 et 80 000 km. Voilà.
D'accord.
Parce que les contraintes sont un peu moins importantes.
Très bien, précision faite, on repart avec vos questions. Et c'est Baptiste qui est avec nous au 32-16. Baptiste, bonjour.
Bonjour messieurs.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Baptiste Duchère.
Bon, oui, je vous appelle pour faire partager mon expérience sur les véhicules électriques.
D'accord.
Une très bonne expérience. Mais avant toute chose, j'ai une proposition à vous faire.
Oula. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez racheter ma frigo?
Vous avez une vieille Ferrari dans un garage et je vous en débarrasse pour 5000 euros, c'est ça?
C'est pas loin de ça du tout.
Ah.
J'habite donc dans le département du Cher, non loin de Bourges. Vous connaissez Jean-Luc Bourges, non?
Oui, je connais Bourges, oui, je sais où c'est. Oui, c'est le centre de la France, oui.
Pas loin du 109.
Oui. Mais vous savez, une partie de ma famille est originaire de pas très loin non plus. Alors,
d'accord.
Donc,
justement, c'est une bonne occasion parce que je vais vous inviter à visiter une entreprise que vous connaissez peut-être. Qui a un renom dans le sport automobile.
D'accord.
Vous connaissez Signature?
Oui, je connais Signature, oui, bien sûr.
Eh ben, je vous invite à visiter l'entreprise.
D'accord.
Donc, avec la part, et puis avec François, bien sûr.
Bah, écoutez, oui. Déjà... Bon, alors, François, je connais mal Bourges.
Ouais, François avec Frigo, ça va prendre plus de temps. Il arrivera en 2022, sans doute, s'il part.
Non, il peut venir en deux fois, je pense, ou une seule fois avec sa Zoé.
Oui, c'est vrai.
Bourges, ouais, faudra qu'il fasse une charge au
milieu. Une charge au milieu, c'est pas grave.
Non, non, mais s'il part le matin, le midi, s'il trouve une borne de charge rapide, il déjeune, et puis il finit l'après-midi, voilà.
Exactement.
S'il trouve une borne de charge rapide qui marche.
Oui. Ah oui, ben ça c'est toujours le problème. Donc non, mais c'est par rapport à toutes les années où j'ai partagé avec vous mes dimanches matins et je sais que ça va se terminer bientôt, donc c'était pour éventuellement vous remercier de tout ça.
Ah bah écoutez, attendez, on viendra le week-end à Bourges.
Pas de problème.
Ouais, on viendra vous faire la bise, ouais.
Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est bon à Bourges? Il y a des spécialités ou pas?
Oui, il y a les Florestines. C'est des petites friandises.
Ouais, d'accord.
Il y a plein de choses, C'est des parenthèses, j'avais pas préparé ça, du coup.
Ah ouais, je pensais pas qu'on allait parler gastronomie.
Non, plus voiture. Non, mais je voulais faire partager mon expérience sur les véhicules électriques.
Alors, racontez-nous.
Ça fait très longtemps que je vous écoute, depuis presque le début, tous les dimanches matin en podcast ou en direct. Et en fin de compte, en 2018, j'ai pris un virage, hein, sans jeu de mots avec l'actualité, mais j'ai pris un gros virage parce que je savais que les carburants allaient augmenter. Et puis, les performances des véhicules allaient venir au bout du jour. Et donc, j'ai vendu mes deux véhicules, mes deux diesels, donc une Audi A4 avant, 2 litres TDI 150, et puis la voiture de ma femme, qui m'en veut encore.
Une Polo. Elle vous en veut vraiment?
Ouais.
Ah
elle
ouais
m'en veut parce que, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais maintenant elle m'en veut beaucoup moins. Donc, en fait, elle avait une Polo, donc un litre de TDI, et donc que j'ai vendu, et avec le montant, exactement le même montant, j'ai racheté une Zoé d'occasion.
D'accord.
Donc, une Zoé première phase, qui a une batterie.
Ouais.
Une batterie assez petite, c'est ça qui la dérange, c'est qu'elle allait clouer à 150 km autour de la maison maintenant.
C'est ça qui l'embête, ouais.
150, c'est l'été, sinon l'hiver,
d'accord,
c'est
ouais.
plus...
c'est 100 km, quoi.
Ouais, c'est ça, surtout en ce moment. Et donc, depuis trois semaines, un mois, j'avais aussi une Saxo diesel de 2003 qui avec un 1,5 litre diesel qui est formidable que j'ai fait reprendre pour acheter une e-up de Volkswagen.
Ouais. D'accord.
Et donc j'ai eu presque à 50% du prix neuf parce que j'ai acheté neuf, j'avais jamais acheté de voiture neuve et donc je l'ai acheté neuf.
Et donc vous l'avez payé combien? Tiens, c'est intéressant ça, Baptiste. Vous l'avez payé combien cette e-up neuve?
Alors, c'est pas un véhicule que j'ai commandé, parce que je me suis lancé au mois de septembre. C'est un véhicule que j'ai, donc, ils avaient précommandé pour se faire un stock et qui comptait vendre. Donc, je l'ai acheté 24 900. Ça, c'est le prix total. Et donc, j'ai eu un peu plus de 6 700 € de bonus. C'est équivaut aux 7 000 €, mais comme on n'atteint pas les 27% du prix,
oui.
J'ai eu que 6 700. Comme je fais plus de 30 km pour aller travailler et que mon revenu de référence était en dessous de 13 000 et quelques euros, j'ai eu 5 000 euros. Donc, une Saxo à 5 000 euros, c'est, je sais même pas le prix que j'ai acheté. Donc, autant vous dire que j'ai.
Ça fait 5 et 6, ça fait 11. Ouais, vous avez payé quoi? 13 000 euros, quoi.
13 200 €.
C'est pas mal.
Exactement.
C'est pas cher.
Et donc, maintenant, je lui prête l'AIF à ma femme pour qu'elle aille un peu plus loin, puisque c'est une voiture qui fait 250 km d'autonomie. Ce qui m'a permis de rattraper le coup de ces deux ans. Donc voilà. Donc
d'accord. Vous habitez en maison individuelle, Baptiste, donc vous rechargez chez vous.
Ouais. J'ai deux prix. Enfin, maintenant, j'ai pas le choix. J'ai deux prises. Et là, je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais acheter une box 7 kilos pour recharger.
D'accord.
Voilà. Et on recharge la nuit. Et alors, c'est vrai que la Zoé, c'est les premières voitures électriques. Et j'ai un petit souci. C'est que moi, je ne recharge que la nuit. Et je suis obligé d'attendre que les heures creuses
démarrent.
Pour recharger la Zoé la nuit, pour optimiser. Hein, c'est juste une optimisation. Après,
surtout la question, c'est la Zoé, vous la rechargez à quelle puissance? Vous êtes à quoi? 3,7 kW?
Alors,
en fait, le rendement du chargeur caméléon qui est sur la Zoé, il est pas bon avec des puissances comme ça. Vous aurez tout intérêt en passant aux 7 kW, finalement, vous consommerez moins d'énergie au global.
Et ça ira deux fois plus vite.
Et ça ira à la fois plus vite, mais surtout le rendement sera meilleur. Vous êtes en train de remplir votre voiture comme si vous mettiez la moitié de l'essence à côté du réservoir. Donc,
c'est embêtant.
D'accord, ok. Mais il y a un petit souci sur cette Zoé, c'est qu'en fait, quand on veut faire démarrer la charge en décalé par rapport au branchement de la prise, il n'y a pas le déclenchement automatique. C'est-à-dire qu'on peut brancher la voiture, elle ne démarre pas, parce que j'ai basculé en fait mes heures creuses avec une horloge, et en fait, le déclenchement des heures creuses se fait à un moment donné, comme personne qui a des heures creuses, et la charge ne se déclenche pas en fait. Par contre, sur l'IEP, il y a une petite différence de génération. Il y a la charge programmée.
D'accord.
La charge programmée, ça, c'est génial.
C'est-à-dire pouvez programmer la charge de la Zoé, vous mettez votre réveil, matin, et puis.
C'est 23h.
Ça dépend.
23h30.
Ça dépend où on habite. Moi, chez moi, j'ai deux zones d'heures creuses. J'ai 1h, 7h, et puis j'ai l'après-midi, 14h, 17h.
L'après-midi aussi. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, mais en tout cas, mais globalement, vous êtes satisfait de cette expérience électrique?
Ben, moi, je regrette rien.
Et voilà.
J'ai pas terminé. J'ai acheté aussi à la place de ma Audi A4, donc un break, parce que j'ai deux enfants, une voiture, comme dirait Jean-Luc, de schizophrène. J'ai acheté une Passat SW GTE.
D'accord. Et hybride rechargeable, dire, donc.
Voilà. Oui, hybride rechargeable. Donc, j'ai trois voitures rechargeables. Hein. Et c'est une voiture, enfin, d'habitude, j'en ai marre de mes voitures au bout d'un an. J'ai bien changé. Et là, j'ai pas envie de la vendre parce que j'arrive pas, en fait, à mettre la main sur un véhicule équivalent dans l'habilité de conduite. Donc, c'est super déjà de conduire en électrique. Donc, certes que 35-40 km, là. Mais quand on met le mode GTE, c'est.
Ah, ça dépote, hein. Ça dépote.
Ouais. Et j'ai essayé pour comparer. Alors, je sais que c'est jamais bon de comparer des marques, mais j'ai essayé la 508 hybride.
La 508, ouais.
Et je suis un peu déçu parce qu'en fait, le moteur électrique, il est couplé à l'avant et là, sur la Passat GTE, il est à l'arrière. Donc, on n'a pas ce coup de pied au cul quand on accélère.
Bah, gardez-la, votre Passat GTE.
Ah, ben, je vais la garder, c'est ce que je vais faire. Je vais la garder. Et puis, peut-être quand il y aura la 508 PSE, je passerai le pas.
Bon, bah, super. Donc, vous êtes globalement plutôt satisfait. Bon, votre femme qui était.
C'est pas globalement.
Totalement satisfait. Bon, bah, Baptiste, merci pour ce témoignage.
Vous pourrez remplacer la Zoé de votre femme bientôt par un modèle d'occasion.
Je suis pas sûr que ce soit simple à revendre une Zoé avec une location de batterie, Jean-Luc.
C'est vrai que le modèle location de batterie de Renault aujourd'hui il a fait son temps. Pourquoi? Bah parce qu'on a une visibilité sur la durée de vie des batteries qui est un peu plus importante que ce que c'était il y a 7 ans. Donc maintenant on sait que les batteries vont durer au moins une quinzaine d'années sur les voitures. Donc la location de batterie a moins de sens.
Mais c'est vrai que c'était intéressant pour des locations avec option d'achat, hein, surtout ce type de véhicule.
Complètement, voilà ça. Hein.
C'était surtout l'objectif de vendre le prix de la Zoé au prix de la Clio.
Exactement. Ah, vous avez tout compris.
Pour que Carlos G tienne ses promesses, puisqu'il avait promis que les voitures électriques seraient au prix des thermiques, mais c'était malheureusement pas possible en incluant la batterie.
Exactement.
Baptiste, à bientôt à Bourges alors.
À bientôt. J'attends votre visite. Hein. Vous allez avoir le temps maintenant les dimanches matins. Moi, je vais attaquer le dimanche matin. Hein.
Écoutez, pour une fois qu'on va pouvoir dormir, les grasses mat, là, ça va être bien. Ouais, à bientôt, Baptiste, en tout cas.
Merci,
bon dimanche.
À bientôt, au revoir.
9h-20, Jean-Luc. On va revenir dans un instant et on va retrouver vos questions, bien sûr, en priorité, hein, vous le savez, 32-16 et l'essai de la semaine, Jean-Luc.
Oui, un petit truc populaire. Une idée de cadeau.
Pour aller à Bourges chez Baptiste avec ça, non?
Pour Noël.
Avec la Maserati.
Même pas si on pourrait faire Paris-Bourges.
Mais vous conduisez-vous? Parce que moi, j'ai pas envie de perdre des points.
Il n'y a pas de raison qu'on perde des points, hein, franchement.
C'est vrai?
Ouais, non, ça roule qu'à 291 km/h.
Oui, c'est vrai. Ouais, vous avez raison. Ah. Allez, à tout de suite. N'hésitez pas à nous appeler. Hein, 3216, l'appli RMC Direct Studio. On est là dans une minute.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
9h moins le quart. Le retour de ce week-end des experts. C'est l'auto. Ouh là là, le temps passe vite, dites donc. On a plein de choses à se raconter avant 9h. Pardon ?
L'auto ou là là ?
L'auto ou là là ? Allez, on accueille tout de suite Patrick qui nous attend au 32-16. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour messieurs. Bonjour de m'accueillir sur votre antenne.
Bienvenue. Bonjour Patrick. Patrick du Tarn-et-Garonne.
Du Tarn-et-Garonne, oui.
Ah oui, puis votre question, elle est oh là là.
Oh là là.
Vous allez ouvrir la boîte de Pandore.
On va parler de
taxes. Ah, c'est terrible. C'est terrible.
Mais je tiens.
Ah ouais. Si allez-y, de toute façon, 2020, c'est l'année pourrie, alors donc autant en rajouter une couche, allez-y.
Autant bien la terminer, vous voyez, avec une question qui tue. Mais comment y échapper? Et je suis très étonné qu'on ne nous oriente pas un peu déjà, on ne nous prépare pas, hein.
Ah si vous avez écouté jusqu'à présent, vous savez, François Sorel et Jean-Luc Moreau sur RMC, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on dit attention, la voiture électrique, pour le moment, on paye un courant qui est complètement détaxé, mais si la TICPE disparaît, l'État va pas s'asseoir sur une manne fiscale de cette ampleur. Donc c'est clair que ça devrait être remplacé par une autre taxe, la même d'ailleurs, hein, puisque au départ ça s'appelait la TIPP, exactement. Souvenez-vous. Taxe intérieure sur les produits pétroliers, c'est devenu la TICPE. Voilà. Pourquoi taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Ça veut dire que, en gros, même si demain la voiture à eau fonctionne, on pourra taxer l'eau comme un produit énergétique. Donc l'électricité, bien évidemment, rentre dans ce champ-là.
Ouais. Et... Ça, ça, pardon.
Non, mais justement, c'est là, vous avez, allez, appuyez là où ça fait mal. Allez-y, dites-nous.
J'appuie déjà, les Australiens ont mis en place cette taxe avec. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a le tout électrique qui soit taxé, et il y a en plus les voitures hybrides. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement en tout électrique, loin de là.
Ouais.
Donc pour 50 km peut-être
d'autonomie,
en ville d'autonomie, on va se taper une petite taxe encore. Hein, j'ai fait mon petit calcul, mais je me suis renseigné un peu sur Internet. Pour 15 000 km l'année, c'est 230 €. Sachant que la différence entre un tout électrique taxé au kilomètre, c'est 1,5 € pour le tout électrique et 1,2 de centimes pour
pour l'hybride rechargeable. C'est vrai que c'est plus intéressant de rouler en 100% électrique qu'en hybride rechargeable. C'est vrai que il y a deux États en Australie qui ont instauré une taxe sur les voitures électriques au kilométrage parcouru. Quand on évoquait cette taxe électrique qui arrivera un moment ou un autre, il y avait plein de solutions en se disant on va la taxer avec des compteurs intelligents. Vous savez, les compteurs intelligents, ça arrive.
Ils feront le distinguo. L'électricité. Hein,
mais il pourrait y avoir des petits malins qui ont leur propre production électrique. Rien ne vous empêche d'avoir des panneaux solaires sur le toit de votre maison, d'avoir même une batterie de stockage intermédiaire et de refaire le plein de votre voiture sans que personne sache que vous avez mis de l'électricité dedans. Et là, de dire on va taxer au kilométrage parcouru, c'est la solution. Peu importe d'où vient l'énergie électrique, peu importe combien elle a coûté, vous payerez au nombre de kilomètres parcourus. Et ça, le nombre de kilomètres parcourus, on pourra le voir avec les contrôles techniques. Alors, certes, il y a des petits malins aujourd'hui qui sont capables de bidouiller les kilométrages des voitures, mais il y aura certainement une parade qui fera que ça sera infalsifiable. Je pense qu'on va arriver à des trucs... Mais ça va être un vrai sujet, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2025, je pense qu'en Europe, ça va être un vrai sujet. Je dis en Europe parce qu'il n'y aura pas que la France.
Il n'y aura pas que la France, parce qu'ils parlent de 2028. Hein, on a des belles usines à gaz aussi en France, c'est-à-dire qu'on a des programmations pluriannuelles de l'énergie qui établissent une feuille de route jusqu'en 2028. Hein, c'est 3 millions d'immatriculations. Hein, donc, ces 3 millions d'immatriculations en électrique, ça fait autant de baisses de recettes fiscales, puisque à la pompe, l'État perd 40%. 40% de nos taxes sur le pétrole, c'est un coût.
Ouais, c'est énorme.
Ça se chiffre en milliards, 35 milliards, on rapporte. Les pompes à essence rapportent 35 milliards d'euros par an.
Le jour où on va nous pondre une loi, ça va nous faire mal. Mais ils vont avoir du mal, hein, quand même. Ils vont avoir du mal, parce que c'est vrai que taxer l'électricité comme on taxe l'essence, on va dans un point
de
station. Là, l'électricité, elle est partout.
Ils n'auront pas le choix.
Ça va être compliqué. Patrick, merci en tout cas pour
cette réflexion. Merci pour ces mauvaises nouvelles, Patrick.
Allez, l'essai de la semaine, Jean-Luc. C'est la Maserati Levante GTS.
Ouais, alors là, on va pas parler de taxes. Ça n'a rien de populaire, mais en même temps, c'est Noël. Noël, c'est la fin de l'année,
Je
vous donne tout de suite le prix, 138 900 euros, comme ça personne se sentira concerné.
Exactement.
Plus 20 000 euros de malus.
Ah, il n'y avait pas les 20 000 euros de malus.
Non, il n'y avait pas les 20 000 euros de malus parce qu'on est à 313 grammes par kilomètre d'émission de CO2, donc c'est très politiquement incorrect. Alors, le Levante, c'est un SUV, c'est le SUV de Maserati. Alors, il a augmenté les ventes de Maserati dans des proportions non négligeables, mais pas autant que ce que le constructeur aurait voulu. Moi, je vais vous expliquer pourquoi, parce que jusqu'à présent, les moteurs disponibles, c'était un V6 essence et même un diesel ou les cornes. Voilà. Donc aujourd'hui.
Maserati diesel.
Aujourd'hui, le mal est réparé avec un V8 biturbo qui a été retravaillé avec l'aide de Ferrari. 3 litres 8, 530 chevaux, un couple gargantuesque de 730 Nm de 2500 à 5000 tours minute. Alors, de quoi taquiner vraiment les gros SUV du secteur qui sont allemands, le Porsche Cayenne Turbo en tête. Alors quand on dit gros SUV, le terme il est adapté. L'engin il fait 5 mètres de long par 2 mètres de large, il pèse 2 tonnes 170. Alors vous me direz, 2 tonnes 110, c'est pas si lourd que ça finalement par rapport à des concurrents. Bon bref, mais avant le grand frisson, on peut déjà se régaler du style intérieur. C'est plein d'imperfections, j'adore.
C'est vrai?
Oui, parce que c'est attachant en fait. les modèles allemands, c'est épuré, voilà, c'est dans les clous, il y a rien à dire. Là, il y a plein de trucs qui vont pas, mais
ça donne une âme à la voiture.
C'est
en fait
exactement ça. Par exemple, Maserati, pendant longtemps, ils avaient une petite pendule franchement baroque qui avait disparu sur les modèles précédents, qui est revenue là-dessus, et je trouve ça super. J'achèterais presque la voiture pour la pendule, à condition qu'on me donne les 150 000 euros.
Oui, voilà, c'est ça, ça fait cher
voilà,
la pendule.
Voilà, c'est bon. Il y a du cuir partout, il y a du carbone, c'est chic. On oublie les détails qui fâchent, comme le système multimédia qui est complètement dépassé, mais vraiment complètement. En revanche, pour 960 euros, pouvez-vous payer une chaîne BO à 15 haut-parleurs, 1280 watts. Franchement, c'est super top, mais vous louperez la plus belle musique. La plus belle musique, c'est celle quand on appuie sur le démarreur. Parce que malgré... Alors, il y a un filtre à particules, puisque c'est un moteur injection directe d'essence. Malgré le filtre à particules, le V8, il chante. C'est une vraie musique, on a envie, voilà. C'est en plus le registre est complètement différent. C'est grave en bas, ça rugit en haut. C'est
un opéra quoi.
Ouais, on peut acheter cette voiture rien que pour le son du moteur. Bon, après il y a les performances qui vont avec le son du moteur. 4 secondes 3 pour passer de 0 à 100, 291 km/h. Donc pour aller à Bourges, on devrait y être assez rapidement si c'est vos points qu'on tire sur le permis, bien évidemment. En plus, la tenue de route est jamais prise en défaut, notamment grâce à une transmission intégrale. En plus, qui privilégie le train arrière, donc ça donne un certain dynamisme à la voiture. Alors, il y a un truc, c'est que ça accélère très fort, mais par contre, quand il faut s'arrêter, les freins, c'est un peu sur rendez-vous. Hein, franchement, moi j'ai trouvé le plus gros défaut de l'auto, c'est ça. C'est
embêtant quand même, parce que c'est un élément sécurité. Non,
ça freine fort. Mais en comparaison des accélérations, j'ai trouvé le freinage très décevant. C'était peut-être mon modèle qui avait un problème, mais j'ai pas été rassuré par le freinage.
D'accord.
Autre chose qui n'est pas très rassurante, c'est quand on s'arrête à la station-service, on se dit zut, j'ai dû mettre l'essence à côté du réservoir parce qu'il est déjà vide. Donc
il faudrait que je vise le trou du réservoir.
Ça. Même en roulant gentiment, on n'est jamais en dessous de 15 litres.
Et oui, c'est
donc
ça.
Voilà. Et puis si vous taquinez le bestiau, vous êtes à 25 litres tout de suite. Donc voilà. Bon, quand on revient, vous me direz aux 138 900 euros, finalement, c'est pas grand-chose, quoi.
Quelques litres. C'est voiture passion, c'est ça. Hein,
c'est un truc pour se faire purement plaisir. Voilà. C'est du rêve pour nous tous, hein, je vous rassure.
Jean-Luc, bientôt 9h, la météo, les infos pour notre dernière partie de ce week-end des experts auto. Notre question pas si bête tout à l'heure, est-on vraiment protégé de la foudre dans une voiture? On reviendra sur le palmarès des awards de l'automobile et bien entendu vos questions auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.